Le monde naturel regorge de merveilles qui font l'étonnement des scientifiques et l'admiration des amoureux de la nature. Du mystère de la beauté à la complexité et l'ingéniosité des systèmes qu'on trouve dans le monde du vivant, nombreux sont les défis à la théorie d'une évolution purement matérialiste qui devrait toutes ces merveilles au hasard. Parmi ces défis, l'un des plus insurmontables pourrait bien être la sexualité. Bonjour et bienvenue à tous dans Il est écrit, pour une émission aujourd'hui, vous l'avez compris, consacrée à la sexualité. Ne vous y trompez pas, on ne va pas parler de Kama Sutra ou de choses comme ça. Non, nous parlons de la reproduction sexuée et des merveilles de ce fonctionnement assez exceptionnel. Pour en parler, je retrouve quelqu'un qui est un scientifique, qui est un habitué de l'émission Il est écrit. Je veux parler de Jean-Robert Gardère. Bonjour Jean-Robert.
Bonjour Rémi.
Merci beaucoup d'avoir accepté de revenir aujourd'hui pour parler avec nous de ces merveilles de la nature. Je dois avouer que personnellement, j'aime beaucoup ces émissions où on peut aborder différentes facettes de la nature et de la création. Et aujourd'hui, on va donc parler d'un système de reproduction qui défie complètement la théorie de l'évolution. C'est la reproduction sexuée. Mais il existe dans la nature d'autres types de reproduction.
Oui, en effet, donc, il y a d'autres formes de reproduction dans la nature qui ne font pas appel à la sexualité. Je vais citer deux exemples. Certains vers vont, par exemple, se diviser en deux ou plusieurs morceaux et chaque morceau individuel va se développer pour produire un nouvel organisme semblable à l'organisme de départ.
Je pense que beaucoup d'enfants ou de jeunes ont fait cette expérience-là, de couper un ver de terre en deux et d'être étonné de voir que les deux morceaux peuvent se déplacer.
Donc, et puis chez les végétaux aussi, il y a ce qu'on appelle le bouturage. Donc, ça consiste à couper un morceau d'un plant adulte. Ensuite, on le met en terre et ce morceau va pousser, va se développer pour devenir un plant adulte identique au plant de départ. Donc, il y en a d'autres, mais parce que la nature regorge vraiment de diversité.
Une grande diversité dans la nature. Mais évidemment, l'un des moyens de reproduction très courants, peut-être parmi les plus courants, c'est la reproduction sexuée. Oui. Et aujourd'hui, on va un petit peu expliquer comment ça fonctionne. Alors, par exemple, ce n'est pas tout à fait par hasard, on va prendre l'exemple de l'homme et de la femme, de l'être humain.
Oui.
Mais bien sûr, ça concerne des dizaines, des centaines, des milliers d'autres espèces.
Exact.
Alors, ça commence avec un matériel de base, un matériel génétique que chaque être humain possède depuis la naissance?
Oui, en fait, il y a une différence entre l'homme et la femme. Par exemple, chez l'homme, donc, le processus va démarrer à la puberté. Donc, tandis que chez la femme, donc, le processus démarre au moment du développement embryonnaire, mais il n'est pas complété. Donc, un bébé-fille va arriver au monde avec un stock donc, d'œufs déjà formés. Et ces œufs-là vont rester comme en dormance après la naissance et à partir de la puberté, donc à l'âge de la maturité sexuelle, donc le processus va redémarrer. Et périodiquement, donc une fois à tous les 28 jours, chez la femme, il y a un œuf donc, qui va être produit.
Tandis que chez les hommes, ça se développe au moment de la puberté.
C'est ça. Chez les hommes, ça commence au moment de la puberté. Et l'autre différence, c'est que chez l'homme, donc, le processus est continu. Donc, à tous les jours, donc, l'homme produit des spermatozoïdes et ça se poursuit jusqu'à la fin de la vie du sujet. Tandis que chez la femme, le processus est cyclique. Donc, ça se répète à tous les 28 jours. Et à un moment donné, la femme connaît ce qu'on appelle la ménopause. Donc, le cycle s'arrête.
Ça, c'est le matériel de base, mais c'est en fait beaucoup plus compliqué que ça.
Oui, bien sûr.
Est-ce qu'on peut expliquer un petit peu, justement, quelles sont les caractéristiques de ces cellules sexuelles du côté mâle et du côté femelle?
Donc, c'est ça. Donc, la reproduction sexuée nécessite donc, ce qu'on appelle des gamètes sexuelles, donc les cellules sexuelles mâles et femelles. Toutes nos cellules se divisent pour produire donc, des cellules filles identiques génétiquement, des cellules qui contiennent la même quantité de matériel génétique, donc 46 chromosomes ou 23 paires. Seules les cellules sexuelles se divisent différemment. Donc, les cellules de base, qui sont les cellules souches, contiennent 23 paires de chromosomes, mais les cellules qui vont être produites, à savoir les spermatozoïdes et les ovocytes, donc vont porter seulement la moitié, donc 23 chromosomes individuels. C'est utile pour la fécondation, parce qu'à la fécondation, donc, les deux vont s'unir.
Ils vont faire la paire.
Ça pourrait constituer
23 paires. Et là, on retrouve les 46 chromosomes.
Exact. Mais un fait très important à souligner, c'est que si je prends l'exemple d'un homme, étant donné que ces spermatozoïdes contiennent seulement un exemplaire de chacune des 23 paires, on sait que dans ces paires-là, il y en a un qui vient du parent paternel et un qui vient du parent maternel. Donc, si chaque paire se séparait juste comme ça, donc on pourrait se retrouver avec des spermatozoïdes qui contiennent seulement le matériel génétique de mon père et d'autres qui contiennent seulement le matériel génétique de ma mère. Mais ça ne se passe pas comme ça. Il y a un phénomène extraordinaire qui va faire qu'au moment, juste avant la division cellulaire, les chromosomes de chaque paire vont s'accoler, ensuite vont s'entrecroiser et vont échanger du matériel génétique. De telle sorte que mon chromosome paternel va transférer du matériel génétique au chromosome maternel et vice-versa. Donc, les spermatozoïdes de chaque sujet vont porter le matériel génétique des deux parents. Et c'est la même chose pour les ovocytes aussi chez la femme.
Donc, on en parlait en préparant l'émission, c'est ce qui explique par exemple que moi j'ai deux filles, j'en ai une qui a les yeux bleus.
Oui.
Ni ma femme ni moi n'avons les yeux bleus.
Exact.
Mais elle a les yeux bleus parce que ça vient de
exact.
Du côté de nos parents à nous.
C'est ça. Donc, le gène était déjà présent dans la lignée parentale, même si les deux parents ne l'ont pas. Et donc, si, par exemple, le parent mâle donc, donne le gène à l'enfant, le parent femelle donne le même gène à l'enfant. Donc, quand les deux se rencontrent, donc, ça va produire les yeux bleus, ouais.
Donc, c'est déjà assez extraordinaire.
Hein? Oh, bien sûr.
Les cellules sexuelles sont différentes de toutes les autres cellules,
c'est
uniques.
Ça. Exact.
Et en plus, elles ont cette capacité de pouvoir, en quelque sorte, récupérer du matériel génétique qui vient des ancêtres et qui va pouvoir être transmis.
C'est ça. Et il y a un auteur qui l'explique en disant que c'est comme une rencontre entre deux êtres là, qui s'aiment. Donc, il y a vraiment un rapprochement intime entre les deux chromosomes de chaque paire pour réaliser donc, ce mécanisme d'échange de gènes entre les chromosomes.
Et pour commencer à créer un être qui va être unique.
Exact.
Alors, parlons maintenant de la fécondation et du développement à partir de là.
Bon, au niveau de la fécondation implique donc la rencontre, justement, la rencontre et la fusion donc, de l'ovocyte et d'un spermatozoïde. Donc, on sait que normalement, la femme produit donc, un seul ovocyte, tandis que l'homme produit des millions de spermatozoïdes.
Donc là, il y aura une compétition entre les spermatozoïdes.
C'est ça. Donc, les spermatozoïdes vont faire un très long trajet pour se rendre jusqu'à l'endroit où ils vont rencontrer l'ovocyte. Mais pendant ce trajet-là, malheureusement, il y a beaucoup de soldats qui vont tomber au combat. Seulement un très petit nombre de spermatozoïdes vont arriver à cet endroit-là. Donc, chez l'homme, on parle d'environ une centaine. Et même là aussi, c'est très utile parce que quand les spermatozoïdes arrivent à l'endroit où se trouve l'ovocyte, ben, c'est sûr qu'il va y avoir une compétition, ils vont lutter pour essayer de pénétrer donc, l'ovocyte. Plusieurs vont tenter leur chance et ils vont fragiliser la membrane de l'ovule et finalement, il y a un chanceux, hein, donc un heureux élu qui va finir par entrer. Et dès qu'il arrive à entrer, à pénétrer la membrane donc de l'ovocyte, de l'œuf femelle, il se produit une réaction automatique donc à la membrane donc sur la membrane donc de l'ovocyte et on appelle ça la réaction corticale. Cette réaction rend la membrane automatiquement imperméable à toute autre entrée de spermatozoïdes. Donc ça évite le phénomène qu'on appelle polyspermie qui serait dommageable pour.
Il ne peut pas y avoir 2, 3, 4 spermatozoïdes qui vont féconder le même ovule.
Exact. Mmh. Supposons que accidentellement 2 spermatozoïdes arrivent à entrer, ben qu'est-ce qui va arriver? On va avoir au lieu d'avoir des paires de chromosomes, on va avoir des triplets de chromosomes. Et on sait que les cas de trisomie sont en général et mortels. À date, le seul rare cas de trisomie qu'on connaît, où les sujets arrivent à survivre, c'est la trisomie 21, mais c'est des individus qui portent toutes sortes d'anomalies, de handicap. Oui.
Qui ont un handicap. Oui. Voilà, donc il y a eu un gagnant.
Oui.
maintenant, l'œuf va être fécondé.
Oui.
Et puis, commence le développement.
Le développement commence. Et il y a un auteur non chrétien qui dit dans un livre de biologie, il dit « La naissance d'un bébé est un événement si courant qu'on a tendance à oublier que ce développement-là est un processus extrêmement complexe. On part d'une seule cellule fécondée, donc l'ovule, pour produire un être humain, donc extrêmement complexe, formé de trillions de cellules, donc de milliers, de milliards de cellules. Et pendant le développement embryonnaire, un processus extrêmement important donc, que je voudrais souligner, c'est la formation donc, des membranes placentaires. Donc, à un certain stade du développement, c'est sûr que l'embryon va s'entourer d'une sorte de mur. Donc,
le placenta est une protection.
C'est ça, c'est une protection. Donc, les enveloppes placentaires, qui sont au nombre de 3, vont entourer le bébé. Et c'est ce que le placenta a plusieurs fonctions. Donc, une fonction de protection, donc ça va protéger le bébé contre les chocs. Le placenta s'est nourri aussi, et via le placenta que la mère va nourrir son petit. Les échanges aussi de gaz, par exemple, le bébé est alimenté en oxygène.
L'oxygène.
Et ces déchets aussi vont être rejetés donc, via ces enveloppes placentaires-là. Bien entendu, il y a aussi un réseau de vaisseaux sanguins donc, qui permettent de faire la connexion entre le bébé et la mère.
Et donc là, il y a tout ce développement, ça ne peut pas être quelque chose qu'on maintenant on examine en détail dans cette émission, mais en soi, ça pourrait faire plusieurs émissions.
Oh, bien sûr.
Tout ce développement au fil des mois jusqu'à la naissance, là aussi, c'est quelque chose d'extraordinaire.
Oh, oui, définitivement. J'ai un collègue de travail, une fois, il arrive, on partage le même bureau, il arrive au bureau un lundi matin, il me dit, écoute, Jean-Robert, j'ai assisté en fin de semaine à la naissance de mon petit-fils. Je n'ai pas pu m'empêcher de conclure qu'il s'agit d'un miracle. Il dit, ça fait plus de 25 ans que j'enseigne les sciences biologiques. Je n'arrive pas encore à expliquer le développement donc, d'un embryon dans le sein de sa mère. Il dit, c'est comme regarder quelqu'un faire une recette de pâtisserie. Donc, on peut expliquer, par exemple, à tel moment la personne va mettre la farine, à tel moment la personne va ajouter des œufs, du sucre, de l'eau. Il dit, mais pourquoi à tel moment précis, dit ça, il faut avoir l'humilité scientifique de reconnaître qu'il y a des choses qui nous dépassent là-dedans. C'est vraiment extraordinaire, c'est merveilleux.
C'est sûr que dans la nature, il y a beaucoup de choses qui nous dépassent.
Oui, bien sûr.
Alors, Jean-Robert, l'enfant se développe, finalement, il va naître.
Oui.
Et là, il y a encore des choses extraordinaires qui se passent.
Oui, bien sûr. À la naissance, un bébé qui arrive au monde, il arrive au monde seulement avec ses défenses naturelles, à savoir, donc, entre autres, les voies nasales et d'autres défenses qu'on retrouve, la peau, donc, qui est la première ligne de défense donc, contre les microbes. Mais au fur et à mesure du développement, donc, au contact avec les microbes de son milieu, donc, l'organisme va fabriquer et ce qu'on appelle donc, le système de protection, le système immunitaire. Mais dans les premiers jours de vie, le lait que la mère va produire, bien, c'est ce lait-là qui va permettre au bébé d'être protégé contre les microbes, ce lait-là qu'on appelle le colostrum.
Le colostrum.
C'est ça. Mm-hmm. Et il y a une parfaite adéquation entre la qualité du colostrum et la capacité d'absorption de ce colostrum-là dans l'intestin du petit. Je ne suis pas médecin, je ne sais pas si c'est la même chose chez les humains, mais chez les animaux, par exemple, l'absorption du colostrum est maximale, optimale, dans les 8 premières heures de vie. Et chez la mère, c'est exactement à ce moment-là aussi que la qualité du colostrum est à son meilleur. C'est-à-dire que ce colostrum-là, en plus de l'énergie et d'autres protéines, il contient donc des anticorps. Donc, les anticorps qui sont les armes de défense qui vont permettre à l'organisme donc du jeune, du petit, de pouvoir se défendre contre les agressions du milieu ambiant.
Donc, c'est extraordinaire parce qu'il y a comme une synchronisation
exact.
Du corps de la mère et celui du bébé
exact.
Pour que celui-ci soit complètement protégé.
C'est ça.
Et face à toutes les agressions possibles.
Exact, exact.
Alors, il y a beaucoup d'autres merveilles associées à la reproduction sexuée.
Ah oui, il y en a plein.
On n'a fait que l'évoquer. Maintenant, ce dont je voudrais qu'on parle maintenant, Jean-Robert, c'est la question de d'où ça vient tout ça. Bon, alors, nous, c'est vrai que dans l'émission, il est écrit, on a une idée précise d'où ça vient, mais quelle est la théorie générale à l'heure actuelle par rapport à l'origine de la sexualité?
Bon, il faut comprendre que la science explique merveilleusement bien le comment des phénomènes, des processus vitaux. En ce sens-là, elle fait des merveilles. Mais en ce qui a trait aux origines, dès qu'on tombe dans les origines, là, on tombe vraiment dans le domaine de la spéculation. Même si on veut nous faire croire que c'est de la science, non, on est vraiment dans la spéculation. J'écoutais une fois un éminent biologiste français, François Jacob, qui disait que la sexualité serait née avec les bactéries. Bon, j'ai fait une petite recherche là-dessus. Puis aujourd'hui, on sait qu'en science, aujourd'hui, on sait qu'on ne peut même pas parler de sexualité chez les bactéries. On parle plutôt de croissance bactérienne. Donc, les bactéries peuvent échanger du matériel et génétique entre espèces.
Mais il n'y a pas de sexualité
non,
des bactéries.
Il n'y a pas de sexualité dans le sens qu'on connaît la sexualité.
Mâle-femelle.
Exact, exact. Donc, François Jacob, il dit que oui, la sexualité viendrait des bactéries, donc il y a environ 1 milliard d'années. Il y a une théorie un petit peu plus récente qui fait appel aux algues, à savoir qu'à un moment donné, les algues produisaient des espèces de spores qu'ils disséminaient donc, dans la nature qui leur permettaient de se reproduire. Et à un moment donné, le système était devenu comme déficient. Donc, ils ont commencé à produire des cellules sexuelles. Mais le problème, c'est qu'au départ, ces cellules-là étaient pareilles.
Alors, pourquoi, comment
Pourquoi, comment, on ne sait pas. Et puis, à un moment donné, par nécessité, parce que c'est toujours un jeu entre le hasard et la nécessité, par nécessité, donc les cellules sexuelles auraient commencé à se différencier pour donner des cellules mâles et des cellules femelles. Mais ça, il n'y a aucun moyen de le vérifier. C'est pourquoi je ne parle même pas d'hypothèse, je parle surtout d'idées, et c'est vraiment des spéculations.
On dit qu'il n'y a même pas d'hypothèse vraiment solide, crédible par rapport à ça, c'est juste des idées qui sont émises.
C'est ça.
Moi, je ne suis pas un scientifique, mais quand même, je réfléchis comme monsieur tout le monde.
Ouais.
Et j'avoue que quand j'ai commencé à réfléchir à ça, à la question de l'origine de la sexualité, en termes évolutionnistes, je me suis dit, c'est insurmontable comme problème. Parce qu'il faut que deux organismes qui, au départ, se reproduisent de manière non sexuée, évoluent de manière parallèle et complémentaire exactement au même moment, sinon ils sont morts.
C'est ça. Et tout cela grâce à des mécanismes aléatoires, parce que c'est ça l'évolution, c'est un ensemble d'accidents qui se seraient produits de manière aléatoire. Mais comment demander à un processus aléatoire de réaliser toujours au bon moment le miracle nécessaire à la perpétuation de l'espèce? Il y a aujourd'hui, on sait qu'il y a une parfaite adéquation aujourd'hui, que ce soit au niveau anatomique, biologique, physiologique ou génétique, donc entre les mâles et les femelles de chaque espèce. D'ailleurs, moi, j'enseigne en sciences animales, et en sciences animales, on parle beaucoup d'insémination artificielle. Par exemple, que ce soit chez les vaches ou chez les porcs, pour faire l'insémination artificielle aujourd'hui, mais les humains vont tout simplement s'inspirer de l'anatomie naturelles des animaux.
Ils vont copier le processus naturel.
Exact. Pour produire donc les sondes à inséminer. On peut pas utiliser par exemple la même sonde à inséminer pour une truie que pour une vache. Donc ça, on copie le modèle naturel pour justement fabriquer les outils nécessaires à l'insémination artificielle. Un autre phénomène important que j'aimerais souligner, au niveau macroscopique, il y a un mécanisme extraordinaire dans la fécondation qui rend la fécondation possible. Sur un ovocyte, donc l'œuf femelle, au niveau de la membrane, il y a des protéines de reconnaissance qu'on appelle ZP3. ZP pour zone pellucide. Et sur le spermatozoïde, donc de la même espèce, du mâle de la même espèce, il y a des récepteurs donc à ces protéines-là. Mais ces protéines sont spécifiques à l'espèce. Donc, pour que la fécondation soit possible, les spermatozoïdes donc du mâle doivent être capables de s'insérer sur, grâce à leur récepteur, sur la protéine ZP3, donc de la membrane de l'ovocyte, comme un système clé serrure. De telle sorte que si je veux, par exemple, en laboratoire, donc dans un tube, féconder un ovocyte de vache avec des spermatozoïdes d'étalon, donc c'est sûr que ce ne sera pas possible.
Parce qu'il n'y aura pas la reconnaissance au niveau de ces fameuses... ce sont des protéines, c'est ça?
C'est ça.
Donc, ZP3.
Ce mécanisme de reconnaissance ne sera pas possible, donc la fécondation n'aura pas lieu. On sait qu'il y a quelques rares cas de croisement interspécifique dans la nature, donc réalisé par l'homme, le cheval et l'âne, par exemple, mais les hybrides qui sont produits sont stériles.
Donc, ce sont quand même déjà des espèces très proches,
oui,
assez proches.
Exact.
Et malheureusement, à partir de là, ça ne va pas plus loin. Ou heureusement, peut-être, la nature a voulu que ça n'aille pas plus loin.
C'est ça.
Donc, tout ce système de reproduction sexuée est d'une précision extraordinaire et demande par conséquent qu'il y ait un concepteur.
Oui, bien sûr. Tout ce qu'on voit dans les processus vitaux, que ce soit au niveau microscopique ou au niveau macroscopique, il y a une parfaite adéquation, il y a une synchronisation qui ne laisse aucune place au hasard et qui fait nécessairement appel à une intelligence, à un concepteur. Parce qu'il y a un réglage fin qu'on ne peut pas attribuer au hasard. Parce que, si je prends un exemple, si je veux, par exemple, faire évoluer une espèce A pour la transformer en une espèce B, mais grâce à des... mécanismes aléatoires, les mutations génétiques, il faut que j'arrive à produire de manière synchronisée en même temps les mêmes changements chez les mâles et les femelles pour que la reproduction soit possible, parce qu'une espèce qui ne se reproduit pas est condamnée à disparaître. Donc, on voit une intention dans tous ces phénomènes-là et croire que le hasard pourrait produire ça, je pense que ça prend une foi, mais vraiment, que je ne peux pas nommer.
Comme disait Jean Rostand, c'est plutôt un conte de fées pour grandes personnes.
Exact, exact.
Et c'est beaucoup plus logique.
C'est ça.
C'est presque évident de voir qu'il y a un concepteur.
Justement, Jean Rostand, c'est un biologiste français qui croyait à l'évolution, mais à un moment donné, il dit, écoute, quand il dit, j'arrive même pas à expliquer une fleur par le hasard, il dit, il faut trouver autre chose. C'est pour ça qu'il a conclu en disant que la théorie de Darwin et de Wallace est un conte de fées pour grandes personnes.
On pourrait encore en parler longtemps, Jean-Robert, mais ça me fait penser, ce qu'on vient de dire, ça me fait penser au tout début du texte de la Bible, dans le livre de la Genèse, où justement on parle de cette autre chose,
oui,
de Jean Rostand, de ce créateur intelligent qui crée les animaux selon leur espèce.
Oui.
Hein, on retrouve ça dans ce que vous nous avez dit aujourd'hui.
Exact, exact.
Et puis, je termine peut-être notre entretien en lisant ce texte qui rappelle justement nos origines. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Mmh. Homme et femme, il les créa.
Oui.
Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre.
Exact. Donc, et pour qu'il y ait reproduction sexuée, ça prend un mâle qui va produire donc les cellules sexuelles mâles, une femelle qui va produire les cellules sexuelles femelles et pas un mécanisme extraordinaire. La rencontre entre les deux, donc entre les deux types de gamètes, donc va permettre, va rendre possible la constitution, la formation d'un nouvel individu. Et aujourd'hui, moi, je dirais que les barrières biologiques qu'on observe entre les espèces aujourd'hui donc, donnent raison au créateur.
Jean-Pierre Gardin, merci beaucoup.
Ça m'a fait plaisir.
Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie.
Si vous souhaitez nous appuyer en faisant un don, voici comment faire. Par téléphone, 514-729-3515, par Internet, www.ilestecrit.tv. Merci pour votre générosité.
France n'est pas avec nous aujourd'hui. Il me revient donc de vous présenter rapidement notre offre de la semaine. Aujourd'hui, un excellent ouvrage intitulé « Création d'un créateur » ou « Hasard de l'évolution ». Un excellent livre qui, justement, parle des évidences dans la nature, des manifestations tangibles d'un concepteur et qui explique pourquoi la théorie de l'évolution par hasard, en fait, ne peut pas rendre compte de tous ces phénomènes extraordinaires qu'on trouve dans la nature. Alors, si vous êtes intéressé par toutes ces questions-là, demandez cet ouvrage pour seulement $13 plus les frais de port. Parmi les sujets qui sont évoqués dans ce livre, « Création d'un créateur » ou « Hasard de l'évolution », eh bien, on parle bien sûr de l'origine de la vie, l'origine des espèces, l'origine de l'homme, l'origine de la sexualité, comme on en a parlé aujourd'hui dans l'émission, mais aussi des choses intéressantes, comme par exemple les limites de la science, à quoi doit-on la prépondérance de l'évolutionnisme aujourd'hui, ou encore l'origine des combustibles fossiles, et puis une réflexion même sur l'extinction des dinosaures. Je suis persuadé que certains d'entre vous sont intéressés par tous ces thèmes-là, donc n'hésitez pas à commander votre exemplaire de ce livre, dont je rappelle le titre « Création d'un créateur ou hasard de l'évolution, une explication raisonnée et raisonnable » pour seulement $13, plus les frais de port.
Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également passer votre commande sur le web à ilestecrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal.
Il me reste quelques secondes pour vous remercier d'avoir été avec nous aujourd'hui, pour vous souhaiter une bonne semaine et pour vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission Il est écrit. Mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ».